Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous recevons Daniel Gravier, qui est directeur général France du courtier XTB. Bonjour Daniel.
Bonjour, bonjour, merci.
Alors, dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter un petit peu à notre audience. Déjà, savoir un petit peu votre parcours et puis après, on parlera du courtier XTB en tant que tel.
Avec plaisir. Daniel Gravier, comme vous avez dit, je suis directeur d'XTB France. Donc moi, mon parcours rapidement, ce qui peut être intéressant sur la partie académique, moi je viens d'une licence en économie à l'université d'Helsinki que j'ai poursuivi par un master en gestion et un MBA en finance de marché. J'avais un vrai intérêt pour la finance de marché et également à un moment opportun étant donné que c'était 2006, 2007, 2008. Donc c'était vrai qu'en termes de timing, j'ai eu de la chance et je suis arrivé dans un moment assez porteur. Et également en Europe, on avait la directive européenne MIF qui est entrée en application en 2007. Donc, mon parcours et mon intérêt pour la finance de marché était au bon moment.
Et alors, XTB, c'est un courtier qui existe depuis combien de temps?
XTB, c'est un courtier qui est d'origine polonaise. On s'est développé, on a ouvert en 2004. Donc, on était les premiers à se développer sur le marché du CFD, du Forex, en Pologne. Rapidement, il y a eu de la demande, il y a eu de l'engouement. Et la société s'est développée dans un premier temps sur les pays limitrophes. La République tchèque, qui est un des principaux pays. Et à partir de 2008, on est arrivé en Europe de l'Ouest, avec l'Espagne entre autres, et la France a ouvert son bureau en mai 2010. Donc voilà en termes de voilà d'évolution rapidement, mais surtout notre origine.
D'accord. Alors c'est très intéressant parce que vous dites au début c'était sur les CFD et le Forex. Alors tout le monde ne sait pas forcément parmi ceux qui nous écoutent ce que sont les CFD ou ce qu'est le Forex. Le Forex donc c'est le marché des changes et les CFD c'est des produits dérivés en fait avec de l'effet de levier par rapport à des produits sous-jacents comme des ETF, c'est-à-dire des indices boursiers ou des actions ou encore aussi des produits du Forex. Et par conséquent au début, c'était orienté très trading, en
Oui, tout
fait.
à fait.
Et au fur et à mesure, vous êtes démocratisé vers quelque chose qui correspond un peu plus à de l'investissement plus long terme, général. Et donc, vous avez de plus en plus de produits, actions, ETF, etc., qui sont davantage faits pour de la détention longue, en fait.
Tout à fait. Historiquement, comme vous disiez très justement, nous étions sur un marché de produits dérivés avec effet de levier. Donc à la fois pour une clientèle niche, mais ce qui permettait également de rendre le marché plus accessible, investir sur l'or, sur les matières premières, sur des indices boursiers. Donc à travers ces produits-là, ça a permis de faciliter l'accès à travers l'effet de levier. En revanche, il y a un risque qui est relativement important en fonction de son expérience et de son aversion au risque aussi. En fonction de ça, nous, à partir de 2018, on a entamé un virage de diversification de produits. L'idée, c'était également de s'étendre, d'ouvrir notre clientèle, de nous développer, pas uniquement géographiquement, parce que XTB est présent en Europe, mais on est également présent en Amérique latine, dans les Émirats arabes unis, en Asie. Mais la diversification de produits faisait sens pour justement ne pas s'adresser uniquement à une clientèle niche, mais de rendre le marché de plus en plus accessible avec l'évolution des technologies, mais on y reviendra juste après. Donc à partir de 2018, actions ETF sont arrivées dans notre portefeuille de produits et on a eu une forte demande. Et étape par étape, on a enrichi notre offre au niveau des titres accessibles. L'offre ETF également, elle, a évolué au niveau des fournisseurs d'ETF. Et donc voilà, on a suivi une tendance, répondu aux attentes de nos clients et on est arrivé dans une nouvelle dynamique qui s'est confirmée avec l'ère Covid et le grand besoin d'autonomie et de quête d'indépendance pour investir auprès des particuliers.
Alors c'est très intéressant, du coup vous êtes beaucoup plus orienté maintenant, enfin j'imagine que vous avez beaucoup plus de particuliers, peut-être qu'auparavant vous aviez davantage de professionnels du trading, ce genre de choses.
Des expérimentés, pas des
Des
professionnels, parce que
expérimentés.
voilà, la réglementation est claire
Oui,
sur ça,
c'est
pour
sûr, il y
pas.
a...
Mais en tout cas, c'était des personnes qui avaient vraiment déjà une expérience d'investissement et on s'adressait à cette niche. Ça représentait que 200-300 000 clients en France uniquement. Donc, quand même très peu, quoi.
Donc j'imagine qu'aujourd'hui vous avez une clientèle beaucoup plus large. C'est combien de personnes à peu près qui ont un compte sur XTB en France?
Alors, en France, on n'est une société cotée en bourse.
Ouais.
On n'a pas le droit de communiquer sur les données uniquement françaises.
D'accord.
En revanche, au niveau du groupe XTB, quand on a franchi le premier million, on a mis quasiment 20 ans pour avoir notre premier million de clients. C'était en 2024.
Okay.
Depuis un an et demi, on a acquis à nouveau 1,7 million de nouveaux clients.
Mmh.
Donc à date, au moment où on se parle, on a plus de 2,7 millions de clients dans le groupe XTB.
D'accord.
Donc il y a une vraie accélération et une vraie demande en face.
Ok, très intéressant. Et aujourd'hui, comment vous identifiez, enfin, à quoi ressemble votre clientèle moyenne? Qu'est-ce que recherche un investisseur quand il va sur XTB? Est-ce qu'il va rechercher justement voilà, de l'effet de levier, combien même c'est un particulier qui n'a pas forcément énormément d'expérience? Est-ce qu'il va rechercher du risque? Est-ce qu'il va rechercher au contraire plutôt de la stabilité? C'est quoi un peu les tendances comportementales finalement que vous observez depuis quelques années?
Alors nous, on essaie de ne pas se cantonner à une typologie d'investisseur.
Mm-hmm.
Notre dynamique, notre démarche, c'est de s'adresser au plus grand nombre pour justement permettre à tout un chacun d'investir sur les marchés financiers. Maintenant, pour ce faire, on a vraiment tout type de profil. On n'a pas un profil vraiment précis de clientèle. Naturellement, on va s'adresser à une clientèle plus masculine, 25-50 ans, CSP+. Quand on a dit ça, on n'a rien dit parce que potentiellement, avec ce que l'on propose, l'investissement est accessible dès quelques euros.
Mm-hmm.
Donc l'idée, c'est vraiment que des personnes puissent franchir les premières étapes. Le premier pas, on a un problème d'éducation financière en France, donc on doit justement combler ce gap, se rendre compte que finalement, c'est pas si compliqué que ça, encore faut-il être un minimum motivé et vouloir y aller, mais il y a vraiment des coûts d'opportunité. Pendant la période Covid, les personnes ont eu du temps, de l'argent, et on disait sur tous les médias, les marchés baissent, c'est la crise, les marchés baissent. Bon, bah très bien, donc ils ont commencé à justement s'enseigner, ils avaient le temps pour le faire, et là on a eu, moi, je pense que c'est pas exagéré de dire on a une explosion de la demande.
Explosion. Oui, très intéressant.
On a fait du d'un mois sur l'autre, on a fait du fois 100%, quoi. On a fait du fois 2 en termes de demande.
Donc, à un moment où les marchés étaient en train de baisser.
Au moment où les marchés étaient en train de chuter avec le Covid, on a des titres qui ont été massacrés, mais des personnes, voilà, progressivement avec le fait de forcer tout le monde à être à la maison, courant mars, mi-mars de mémoire, 2020. Et bien les personnes ils ne consommaient plus, ils avaient de l'argent, il y a eu le maintien des salaires, donc il n'y avait pas de difficulté au niveau de leur, ils pouvaient épargner encore plus, alors que les Français sont un peu les champions d'Europe de l'épargne.
Oui. En plus, on dépensait encore moins puisqu'on était tous à la maison.
Exactement. Donc là, on a eu un effet boom. Et là, on a eu du mal à déjà répondre à toutes les demandes. Et ça, c'est un premier élément qui nous a mis dans une nouvelle dynamique. Une nouvelle dynamique, on s'est dit, faut pas que ça soit un one-off. Faut pas que ça s'arrête au bout de 6 mois dès que le Covid sera passé. Donc, on va accompagner la demande du public pour qu'il y ait véritablement un engouement qui va s'inscrire dans la durée. Et puis la guerre en Ukraine est arrivée en 2022.
Mmh.
À nouveau, actualité, beaucoup de bruit autour. On a vu des tensions qui a pu y avoir, et c'est sans encore parler récemment, conflit en Iran. Bref, il y a tout le temps des effets d'actualité.
Ouais.
Et pour revenir à votre demande, quelle typologie de clientèle? Eh bien, on a vraiment tout type de profil. Indépendamment que les personnes souhaitent investir à court terme, à moyen ou à long terme, on a vraiment des coûts d'opportunité.
Mmh.
Et bien, les personnes se rendent compte que ces coûts d'opportunité, ils ne veulent pas les manquer.
Ok, c'est très intéressant parce que moi, j'ai le souvenir, plein de personnes qui me précèdent en termes d'âge me disaient que notamment l'an 1999-2000 était une folie. Il y avait beaucoup de gens qui connaissaient rien à l'investissement et qui se mettaient dessus, qui achetaient des valeurs sans regarder ce que ça faisait, notamment dans le milieu d'Internet, et derrière qui se sont faites massacrer quand il y a eu l'éclatement de la bulle. Donc moi je trouve ça très intéressant que votre clientèle est avait absolument boomé à un moment donné où le marché était justement en train de baisser. C'est justement, je trouve, quelque chose d'assez sain de se précipiter sur le marché quand il baisse plutôt que quand il est en train d'exploser, de se mettre, de s'endetter en levier pour se mettre sur des valeurs qui font que monter jusqu'au moment où ça pète à la baisse.
Alors, donc, on essaie de leur dire, je me permets de vous interrompre, on essaie de les accompagner dans l'éducation, vous l'aurez compris, on leur dit... On rattrape pas un couteau qui tombe. Ouais. Le marché baisse, il y a une bonne raison. En revanche, soyez attentif au rebond. Mm-hmm. Quand ça rebondit, voilà, là, il y a peut-être une opportunité pour prendre le train en marche. Mais ils peuvent avoir tendance, historiquement, et ça commence à devenir de moins en moins vrai, le marché baisse, je vais en acheter. Et il baisse, je vais en racheter, parce que c'est pas cher, et ainsi de suite. Et donc, il y a une espèce de moyenne à la baisse, avec une perte latente à supporter qui n'est pas rien. Et donc là, il commence à se dire, voilà, faire preuve de patience, d'observation, et ça les intéresse, tout simplement. On a eu... la technologie qui a aidé aussi fortement, au risque de me répéter, 2007-2008, c'est une période intéressante. 2007, c'est la première iPhone, smartphone qui arrive sur le marché. Le lancement du premier iPhone, au même moment, on a la directive européenne MIF qui souhaite rendre plus, d'organiser un peu mieux le marché financier auprès des particuliers.
Ouais.
Donc, au coup d'opportunité, on commence à entrer dans une nouvelle dynamique. Et l'évolution des applications mobiles, des smartphones et ainsi de suite fait que aujourd'hui, les personnes investissent dans les transports, chez eux, dans leur canapé. Ils ont accès à l'information et ils sont en capacité d'investir seul.
Ouais.
Donc parfait.
Alors, ce qui est intéressant, vous faites un petit peu d'éducation financière, effectivement, sur XCB. Vous avez pas mal de documents qui expliquent tout un tas de trucs. Nous aussi, on fait ça sur l'Université de l'Épargne. Donc, en ce sens, on est assez complémentaires, parce que nous aussi, on fait pas mal d'éducation. On essaye d'expliquer aux gens que, faut pas forcément paniquer s'il n'y a pas nécessairement de raison de paniquer lorsque le marché est en baisse. Au contraire, ça peut représenter une opportunité. Là-dessus, est-ce que les gens vraiment, vous ressentez un besoin d'éducation financière chez les gens? Est-ce qu'ils n'en ont pas eu assez? Parce que typiquement en Allemagne, aux États-Unis, c'est une habitude chez une grande partie de la population de se dire hop, j'investis sur le S&P 500, le Nasdaq, l'indice local, n'importe quoi, j'ai quelques notions de sélection d'actions. On a l'impression qu'en France, il y a... Comment dire, on s'appuie énormément sur l'État. L'État doit gérer le livret A, donc l'épargne. Il gère la retraite. Donc finalement, l'investissement, c'est pas pour nous. À la limite, on a une assurance vie, mais enfin, pas plus que ça. Et on va certainement pas gérer nous-mêmes notre investissement. Est-ce que vous notez un besoin en ce sens de la part de l'investisseur français? Et est-ce que l'investisseur français est en train de prendre en main davantage son argent, ces investissements?
Alors déjà, c'est une nécessité, l'éducation financière. Il y a énormément de générations, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas reçu d'éducation financière. Donc du coup, la seule éducation financière qu'ils ont pu avoir, c'est leur conseiller bancaire.
Ouais.
Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut. Et je pense que il y a mieux à faire. En France, 15% des personnes sont investies sur les marchés financiers, 55% aux États-Unis. Donc ça donne un petit peu de ton. On n'a pas la même sensibilité. On a aussi cette peur des marchés financiers, comme si c'était un gros mot. On va dire que c'est risqué. Voilà, marché financier, il a le risque. Les gens ont tendance quand même à oublier que sur les 40 dernières années, l'investissement le plus rentable a été en actions et dividendes réinvestis. Il n'y a pas que l'immobilier qui existe, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Donc je ne suis pas critique de l'immobilier, moi-même je suis investi dans l'immobilier, mais je pense qu'il ne faut pas se dire que l'investissement sur les marchés, c'est risqué. Ça l'est, oui, mais il y a aussi des choses à faire. Pour ce faire, les personnes doivent avoir un minimum de connaissances. Et c'est là où le bas blesse. Ils ont le sentiment que c'est risqué parce qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas les bases des notions qui doivent être comprises, acquises pour évoluer. Et bien quand on n'a pas ça, on a le sentiment de ne pas être en maîtrise, on n'a pas envie de se lancer. Et c'est normal. Eh ben, je pense qu'il y a vraiment de belles choses à faire pour justement les éduquer, les accompagner. Il y a de la demande, nous on le voit. On voit qu'il y a de la demande. C'est aussi pour cette raison qu'on a une collaboration très intéressante entre vous et XTB, qui permet justement d'accompagner les particuliers, eh bien, à être de plus en plus autonomes dans leurs décisions d'investissement, de gestion de leur patrimoine, de gestion de leur argent au quotidien. Donc oui, nous, on a de la demande et on essaye, voilà, de produire différentes typologies de contenus, que ça soit sous forme rédactionnelle, sous forme de vidéo, des contenus très chauds, hein, très d'actualité ou des informations de gestion du patrimoine au sens large, parce qu'on se rend compte que eh bien, la base des éléments sur une gestion saine de son patrimoine, eh bien là, c'est pas acquis. Ce constat étant fait, on va pas avoir un constat trop pessimiste. On va dire bon voilà, il y a du travail à faire, donc on s'y met, on se lance, on démarre et on essaie de faire de la manière la plus sympathique possible et de se dire bah, finalement c'est pas si compliqué. Et est-ce qu'on observe également, c'est ceux qui ont démarré, ils se disent bon finalement j'aurais dû commencer un peu plus tôt.
Oui, c'est forcément. Et il y a une statistique assez intéressante. Je crois qu'en France, 14% des gens sont investis dans les crypto-monnaies, quelque chose comme ça, ce qui est un pourcentage très élevé par rapport à d'autres pays, qui est, je pense, assez révélateur du fait que c'est principalement les jeunes hein, qui se mettent sur ce genre de support. C'est-à-dire que d'une part, ils se mettent à l'investissement et d'autre part, ils se mettent aussi sur des trucs assez risqués. Est-ce que vous notez aussi cette différence générationnelle de réflexes de placement, d'investissement en fonction des générations? C'est-à-dire que bon, il y a aussi, nous avons des problèmes macroéconomiques en Europe et en France, c'est-à-dire que nous avons une dette qui est assez élevée, qui est de plus en plus élevée, nous avons derrière un impact sur la charge des intérêts de la dette, ce qui a un impact derrière sur notre déficit, ce qui a de nouveau un impact sur notre dette, etc. etc. On a le rendement, comment dire, annualisé des retraite qui est en chute libre, donc aujourd'hui c'est pas très intéressant pour quelqu'un typiquement de mon âge d'à peu près 25 ans de cotiser pour la retraite par rapport à ce que ça pourrait être sur de l'investissement plus classique. Est-ce que vous ressentez aussi un besoin plus de ces jeunes générations de se mettre sur ce genre de support par rapport à ce que pratiquaient leurs aînés?
Alors par rapport aux crypto-monnaies, c'est indéniable. Il y a eu effectivement une nouvelle, cette jeune génération qui arrive sur la crypto-monnaie parce qu'il y a beaucoup de relais d'informations. Il y a une chose qu'on a tendance, peut-être on ne met pas suffisamment d'accent dessus, les réseaux sociaux. Ça a été un vecteur vraiment d'accélération de l'accès à l'information. Je ne vais rien vous apprendre en disant que c'est consommé plutôt par des jeunes que par l'ancienne génération. Mais ceci étant, eh bien, il y a beaucoup d'échanges par rapport aux crypto-monnaies. Donc oui, les jeunes vont plus sur la crypto-monnaie. Mais c'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée qui va ouvrir aussi au reste du marché. On a aussi un engouement sur les ETF. Les ETF, ça s'ouvre à une clientèle beaucoup plus large. Oui. Et pas uniquement les jeunes. Donc je prendrai plus la crypto-monnaie comme un support, un produit d'appel, un marché d'appel pour susciter l'intérêt auprès des jeunes. Le premier boom qu'on a connu sur Bitcoin, c'était fin 2017, où on a eu une première accélération et il y a eu beaucoup de relais auprès des médias. Les médias ont eu tendance à faire du storytelling autour de la crypto-monnaie. Et le storytelling était facile. Un tel ou une telle a commencé à investir sur la crypto-monnaie. Devinez quoi, elle était millionnaire en 6 mois. Quand on voit ça sur France 2, sur TF1, forcément, il va y avoir aussi beaucoup de relais sur les réseaux, beaucoup d'étoiles dans les yeux, de dollars dans les yeux. Donc, c'est pas amené de la meilleure des manières, mais en tout cas, ça a amené un boom. Et nous, on a aussi observé une forte demande d'investissement sur la crypto-monnaie. On a proposé jusqu'à maintenant les crypto-monnaies via du CFD. On s'apprête à lancer les crypto-monnaies en réel en 2026. C'est pas d'objet. Mais en tout cas, voilà, on a une nouvelle génération qui s'investit sur les crypto-monnaies, mais pas que. Mais pas que. C'est vraiment en fonction des sensibilités. C'est comme l'ancienne génération qui était très action, bah, devient aussi de plus en plus ETF. Donc il y a vraiment un mouvement qui s'opère entre les différentes générations, alors chacun à sa manière, actions, ETF, crypto-monnaie, mais en tout cas ça vient gentiment se mêler. Et ça c'est facilité aussi par l'application qu'ils ont en main. Quand on a l'application, on a accès à différents marchés et on a accès à différentes infos. Nous, alors je vais reprendre, parce que je vous ai sorti quelques data intéressantes, enfin j'espère que vous les jugerez intéressantes.
Bien sûr.
Moi, je trouve. On a eu de gros mouvements sur le pétrole. Mais il s'avère qu'il a été le plus investi chez XTB en 2026 à date. C'est matières premières, c'est le pétrole. C'est pas la crypto-monnaie, c'est pas les ETF. Donc en termes de volume d'activité, ça a été sur des, ça a été sur les matières premières. Donc on voit vraiment ce coup, ce souhait d'opportunité. Et les personnes vont naviguer d'un marché sur l'autre en fonction de ce qui se passe.
Bien sûr. Alors c'est sûr, il y a sur les marchés, il y a comme ça, il y a des modes, des narratifs. C'est-à-dire que d'un seul coup, on aime bien se raconter des histoires et c'est un outil extraordinairement puissant. Et c'est vrai que là-dessus, c'était surtout oui, fin 2024, début 2025, c'était vraiment à fond sur la crypto. Et bon, c'est à peu près tous les 4 ans comme ça qu'il y a une espèce de vague, en général juste après le halving du Bitcoin. Et là, effectivement, depuis le début de l'année, c'est vraiment le pétrole. Et puis après, il y a aussi tout le marché de l'intelligence artificielle. Donc il y a des comment dire, des valeurs comme, je sais pas, comme Micron Technologies, Samsung, plein d'autres aussi, des valeurs asiatiques ou des valeurs de technologie américaine qui ont pris des valorisations complètement dingues. Est-ce que vous observez aussi beaucoup l'investisseur de détail sur ce genre de valeurs-là depuis le début de l'année?
Oui, très sincèrement, quand on voit la valorisation d'NVIDIA, pour ne citer qu'elle, bien évidemment, c'est un regard d'intérêt, mais aussi attentif sur des valorisations aussi élevées. Quand on franchit les 5 000 milliards de capitalisation boursière, on est sur des niveaux stratosphériques. Je rappelle tout de même que la première entreprise qui a franchi de 1 000 milliards de capitalisation, c'était Apple en novembre 2017. On est à peine 10 ans après, et déjà à l'époque on se disait 1 000 milliards, rendez-vous
c'est
compte,
énorme,
c'est énorme. Et là, à peine 10 ans après, on a des valorisations vraiment stratosphériques sur Nvidia, plus de 5 000 milliards. Donc oui, il y a de l'intérêt, mais là ça commence à s'interroger sur quand est-ce que ça va se dégonfler. Alors, j'ai l'impression qu'on se dit ça depuis déjà pas mal de temps. On avait déjà des premiers discours en 2024 de bon, attention, ça risque de, voilà, on risque de retracer, et puis ça vient pas. Voilà, une année, deux années passent et ça ne vient toujours pas. Est-ce que c'est un effet politique de Trump? Certainement, soutien du marché d'une manière que je vais pas forcément critiquer, mais force est de constater que ça continue on continue à franchir des records.
Complètement. Après, c'est vrai que je prétends pas connaître extrêmement bien les tenants et les aboutissants de ce narratif. Il faudrait que je m'y penche davantage vraiment dans le détail. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu aussi auto-entretenu, c'est-à-dire que il y a des grosses valorisations comme Nvidia qui aussi investissent dans des boîtes qui elles-mêmes derrière vont utiliser les puces de Nvidia et donc vont gonfler le chiffre d'affaires et les bénéfices de Nvidia. Donc il y a un côté comme ça avec beaucoup de plus-value latente qui se comment dire qui s'accumule, et donc derrière dans les bilans de ces boîtes on va dire ça suit à peu près les valorisations boursières, donc là-dessus il n'y a pas tellement d'inquiétude comptable, mais c'est vrai que le jour où il y a un pet quelque part, peut-être que ça peut avoir un effet domino et contaminer tout le reste. Mais d'ailleurs là-dessus je vois un comportement qui est plutôt sain de la part de l'investisseur de détail, c'est-à-dire que ces dernières semaines, ils ont eu plutôt tendance à vendre ces valeurs, c'est-à-dire à prendre des profits, plutôt qu'à se précipiter là-dessus en se disant « Ah, oh, ça a pris 20% dans la semaine, faut absolument que j'y aille, sinon je vais tout rater. » Au début, il y a eu un petit peu de ça, mais dernièrement, l'investisseur de détail a eu plutôt tendance à vendre ses valeurs et à se dire « Bon, je préfère me protéger quand même en cas d'éclatement d'une bulle, parce que là, ça prend des proportions telles que je sais pas trop ce qui va se passer la semaine prochaine. »
Oui, effectivement, il y a eu des prises de bénéfices, on a vu des petits trous d'air, donc des prises de bénéfices de la part des investisseurs, donc c'est très bien ainsi, c'est sain, effectivement, comme vous le dites. À un moment donné, il faut aussi savoir prendre ses gains. Mais en tout cas, si on revient un petit peu sur ce que nous avions indiqué, voilà, des Français de chemin et non, hein, 15% investis en France, 55% d'Américains. Donc le chemin est encore long, mais la tendance est là, elle est présente, elle est palpable. Il y a de l'intérêt, il y a de l'engouement, il y a une vraie demande, et ça, on en est ravis. On espère de plus en plus d'investisseurs à l'avenir, et c'est ce qui est en train de s'opérer. Donc, vous savez, nous, on est vraiment là pour répondre à une demande. Mmh. On est dans un secteur qui est très réglementé, donc on ne peut pas se permettre de dire tout et n'importe quoi. Ouais. On ne va surtout pas faire des promesses de rendement, mais on répond à une demande, tout simplement. Mmh. Là, on a la plus grande introduction bourse de l'histoire qui va arriver avec SpaceX. Ouais. Eh bien, on a de la demande en interne. Enfin, quand je dis en interne, auprès de la clientèle d'XTB, ouais. On a de la demande pour, voilà, je veux en être. Je veux en être. Donc, on va faire en sorte de leur permettre d'investir dans les meilleures conditions possibles, parce que nous, notre métier, c'est le courtier en bourse. Ouais. C'est d'exécuter des ordres au bon prix et à la bonne quantité. C'est ça, nous, notre métier de base. Et maintenant, on va aussi, notre côté très fintech, parce que c'est ce que nous sommes avant tout, rendre l'expérience utilisateur la plus intéressante possible à travers l'application mobile. Parce que c'est le support qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui, et ça montre la manière dont les personnes vont consommer l'investissement, consommer l'information, et la manière dont ils vont investir. Mmh. On voit année après année une augmentation de la part d'investissement sur via l'application mobile. Et chez XTB, ça représente, je vais vous dire ça, ça représente les deux tiers. Hein.
Oui, ça représente deux tiers d'utilisateurs sur mobile.
Deux tiers sur mobile, ouais, rendez-vous compte.
C'est beaucoup. Ouais.
C'est énorme. Ouais. Et ça augmente, la part augmente année après année.
Mais cela dit, oui, c'est vrai que ça fait partie du processus de démocratisation, parce que c'est moi, j'aime bien être sur mon ordinateur pour aider à la prise de décision, parce que ça me permet de voir plus d'informations, etc. Mais derrière, généralement, c'est vrai que j'utilise pas mal mon téléphone pour faire ce genre d'opération et pour passer à l'acte. Si on se met un petit peu à la place d'un investisseur, a priori, bon, encore plus quelqu'un qui peut-être n'aurait jamais eu de courtier dans sa vie, qui voudrait commencer l'investissement, si on se met à sa place, comment on sélectionne un courtier ?
Comment on sélectionne un courtier ? Je pense que le point qui est important, c'est l'accessibilité. On parle quand même d'argent. Part d'investissement, c'est important de pouvoir être rapidement et facilement en contact avec son courtier. Bon, nous concernant, on a fait le choix depuis notre arrivée en France d'avoir un bureau physique à Paris. Ouais. C'est pas pour le plaisir d'avoir un bureau physique, c'est juste un souci de proximité. On est sur un business en ligne, mais malgré tout, on veut avoir cette possibilité d'être accessible facilement pour la clientèle. Alors, dans un premier temps, par téléphone, parce qu'on peut pas accueillir tout le monde dans nos bureaux, mais ils ont la possibilité de venir nous rencontrer. Donc ça, c'est également intéressant. Mmh. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense, c'est de vraiment s'assurer que l'intermédiaire par lequel on va passer est sous contrôle des autorités de place, l'AMF, la CPR, pour ne citer qu'elle, concernant la France. Mmh. Et également, prendre le temps, il ne faut pas se précipiter, des opportunités, il y en a. On propose plus de 12 000 actifs sous-jacents. Donc de marché accessible via XTB, donc des opportunités, il y en a. Pas besoin de se précipiter, d'avoir ce sentiment, tiens, j'ai loupé l'opportunité du pétrole et je vais y aller. Non. Ouais. Ça, c'est le premier conseil. Prenez le temps de vous renseigner, de parler avec votre référent au sein de votre intermédiaire, s'assurer que, bah, pas vous avoir au téléphone que quand ça va, mais quand ça va pas aussi. Je sais pas, moi, j'ai une demande, un problème d'accès ou problème avec ma carte bancaire, bref, des problèmes qu'on peut avoir un petit peu au quotidien en gestion de son compte, et bien d'avoir aussi dans ces moments-là facilement d'accès aux personnes. Donc c'est des éléments qui sont pas, enfin, j'enfonce des portes ouvertes là, on est sur des éléments assez classiques, mais je pense que le premier conseil, c'est ne vous précipitez pas, prenez le temps de vous renseigner correctement, prenez vraiment le temps de cela, et d'avoir des personnes au téléphone et ne pas vous faire balader. On a beaucoup de démarchages, on reçoit tous quotidiennement des appels, et ben non, assurez-vous de parler à la bonne personne. Récemment, on a développé une fonctionnalité chez XTB. On permet aux clients qui s'assurent à travers leur application que la personne qu'ils ont en ligne, c'est bien une personne de chez XTB.
D'accord.
Donc, ils ont une notification sur leur application qui permet de s'assurer qu'ils ont bien une personne d'XTB au téléphone.
Ok.
Et inversement, nous, nos référents, nos équipes, ont la possibilité de s'assurer qu'ils ont bien le client au téléphone et qu'ils n'ont pas une tierce personne.
Ouais, bien sûr.
Donc, j'ai envie de dire, c'est malheureux. On doit mettre des choses en place pour s'assurer qu'on voilà, qu'on n'est pas en train, pour le client, on n'est pas en train de se faire arnaquer par un intermédiaire. Et pour XTB, de s'assurer qu'on n'est pas une personne qui est en train de frauder et qui a volé des informations de connexion ou autre. Alors, c'est de moins en moins facile. Maintenant, la connexion, double authentification, notification sur application, empreinte digitale, bref.
Ouais.
On doit mettre en place des choses. Ça devient de moins en moins facile pour le fraudeur, mais c'est l'heure de fou indispensable. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, ça permet de nous rassurer et à l'investisseur d'investir dans de bonnes conditions.
Ouais, alors ça, je dois dire en toute honnêteté, on a des bons retours là-dessus par rapport au service client de XTB, parce que dès qu'on crée un compte, on a directement quelqu'un de XTB qui nous appelle et qui peut continuer à nous appeler régulièrement. Alors moi, en tant que consommateur, c'est pas forcément ce qui va le plus m'intéresser, mais peut-être que c'est le cas de ma génération de manière générale. En revanche, je conçois tout à fait que, surtout pour des personnes âgées, c'est très rassurant d'avoir un référent au téléphone, comme ça, une personne physique, et en plus de ça, de pouvoir aller aussi dans les locaux si besoin. Ça, c'est vraiment un point fort, parce que il y a beaucoup de courtiers qui ne proposent pas ça du tout. Et en plus de ça, surtout un courtier d'origine polonaise qui propose ça en France, c'était pas forcément une évidence. Donc, franchement, bravo là-dessus, parce que ça fait partie, je trouve, des points forts de XTB. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit vérifier quand on fait une opération, ce qu'on paye en termes de frais, etc. Comment essayer d'éviter de se faire avoir là-dessus, parce qu'il y a certains établissements qui n'hésitent pas à ponctionner des frais parfois assez importants. Il y a aussi des frais cachés qu'on ne voit pas nécessairement sur des opérations de change, ce genre de choses. Comment on essaye de se protéger contre ça quand on est investisseur?
Bah là, on est dans la même logique de ne pas se précipiter, prendre le temps de regarder. C'est vrai que, en tant qu'intermédiaire, en tant que courtier, on a un devoir de transparence. Mmh. On doit indiquer le tarif qui est appliqué. Alors, il s'avère, chez XTB, des personnes peuvent investir sur actions et ETF à 0% de commission. Mais ce n'est pas que 0% de commission, parce qu'on n'est pas... On n'est pas philanthrope,
oui.
On doit gagner de l'argent, donc c'est 0% de commission dans un limite de 100 000 euros par mois.
Ouais.
Alors 100 000 euros, ça paraît beaucoup, dit comme ça. Mais il faut savoir que si les investisseurs sont quand même relativement actifs, qui vont acheter pour 5 000 euros de titres et qui vont revendre pour 5 000 euros parce qu'ils revendent dans un foulée, pour la beauté de l'exemple, ouais. je ne vais pas amener de plus-value ou de moins-value, et ben ça fait tourner le compteur de 10 000 euros.
Ouais.
Donc ça peut aller relativement vite. Et au-delà, il y a un tarif qui s'applique de 0,2% avec un minimum de 10 euros. Le but du 0% de commission, c'est de rendre le marché, l'investissement accessible.
Mmh.
On doit être cohérent. On veut démocratiser l'investissement sur le marché financier. Mmh. On sait que beaucoup de personnes n'investissent pas encore. Et bien déjà, on va faire en sorte d'être attractif en termes de tarification. Un peu plus d'un an, on a lancé le PEA. Le PEA, c'est 7,2 millions de PEA en France. Mmh. On est sur un produit avec un avantage fiscal. Il en reste plus beaucoup, donc ça serait quand même dommage de s'en priver. Je le répète, pas d'impôt sur le revenu sur le PEA avec une détention à plus de 5 ans.
Mmh.
Donc sur les plus-values et dividendes.
Mmh. Et qui s'applique sur actions, ETF français, européens. Il y a aussi des ETF swappés avec d'autres pays, d'autres continents.
Exactement. Il faut qu'il y ait 75% qui soient détenus en Europe pour être éligibles. Donc, il y a des critères d'éligibilité. Le PEA, moi, je pense qu'il faudrait le rendre un peu plus simple.
Mmh.
Les personnes ont du mal à transférer leur PEA d'un établissement à l'autre.
Mmh.
Bon, bref, on vient d'augmenter récemment les prélèvements sociaux qui ont un impact direct sur le PEA. Bah, c'est dommage. Aujourd'hui, et c'est sans parler de la taxe sur la transaction financière de 0,4%, je crois, à la TTF, bah, c'est dommage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la taxe sur la transaction financière, ça me coûte moins cher d'acheter une action américaine que d'acheter une action française.
Ouais.
Donc, c'est fort dommage. Donc, on n'encourage pas. Donc, j'aimerais vraiment qu'on puisse rentrer dans une voilà de se dire bah c'est il faut investir dans l'économie réelle. On a des fleurons en France et en Europe et en France, donc il faut être fier de ça et investir dans ces entreprises. Donc ceci étant dit, on a le PEA, 7,2 millions de clients. Donc aujourd'hui, les personnes doivent être en capacité d'investir dans de bonnes conditions. On doit être transparent sur les tarifs, rendre les choses accessibles. Pourquoi je donne l'exemple du PEA? C'est un marché qui existe depuis 35 ans. Nous, on arrive au bout de 35 ans. On doit quand même faire en sorte d'être un peu crédible pour avoir de l'engouement. Eh ben, on a débuté avec 0% de commission également, comme pour les actions et les ETF. L'idée, c'est de parler au plus grand nombre. Après un an, on a ouvert plus de 10 000 PEA en France. On en est ravis. On ne fait pas de transfert. Donc, c'est des nouveaux personnes qui arrivent sur le PEA. Donc, ça, c'est bien. Donc, on est vraiment dans une cohérence dans notre démarche d'LC.
Sachant qu'une personne peut avoir plusieurs comptes-titres, mais qu'un seul PEA.
Tout à fait. Plusieurs comptes-titres, un seul PEA. Et dans cette logique-là, voilà, on a capté beaucoup d'intérêt auprès de nouvelles personnes qui n'avaient pas encore de PEA. Et on va, j'espère, rapidement lancer le transfert. Et ça, c'est ce que je disais. Il faut que ça soit facilité. Transférer un PEA, c'est... ça peut être un petit peu le parcours du combattant et sujet à beaucoup de frustration pour le client. Je pense qu'on a beaucoup de travaux pour rendre les choses beaucoup plus faciles. Et l'engouement est aussi appuyé sur la retraite. Le sujet retraite qui fait que la prise de conscience progressive et collective que eh bien, la retraite, elle ne va pas être ce qu'on nous a promis de plus en plus. Et donc, ceci étant dit, c'est aussi une prise de conscience auprès des nouvelles générations, mais pas que, qu'on va tendre vers une retraite de moins en moins par répartition parce que le système, il n'est pas viable, donc il faut l'admettre, il faut à un moment donné dire voilà, c'est pas possible, on va pas pouvoir y aller, donc comment on fait maintenant? On va pas simplement avoir un constat un peu fataliste, oui ça marche pas, ben maintenant on va essayer de trouver des plans B.
Les
plans B, ça passe par la capitalisation.
Complètement, alors ça, toutes les personnes de mon âge que je connais essayent toutes d'avoir un peu de côté en plus de leurs revenus pour l'investir derrière. Donc ça peut être des montants, ça peut être 100, 200 euros, 500 euros par mois, quelque chose comme ça, parce qu'ils se disent, peut-être que la phrase « on n'aura pas de retraite » est un peu abusive, mais il est à peu près certain, même il est 100% certain, qu'elle n'honorera pas ces promesses de la même façon que pour les baby boomers. Donc là-dessus, on cotise une grosse partie de notre salaire, et d'ailleurs de plus en plus, il y a déjà aussi une incompréhension par rapport à comment ce système est fait, c'est-à-dire que on pense cotiser pour nous-mêmes, en réalité on cotise pour un droit, ce droit peut totalement changer, et d'ailleurs il va nécessairement changer, puisque ceux qui reçoivent leur retraite aujourd'hui ont travaillé dans un monde où il y avait 3-4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, c'est à peu près 1,7 actifs pour un retraité. C'est plutôt un chiffre qui est en tendance baissière, donc ça va être 1,6, 1,5, 1,4. À un moment donné, ça ne peut juste pas tenir. Donc oui, toutes les personnes de mon âge que je connais essayent toutes d'avoir comme ça des sommes systématiquement chaque mois à investir sur le côté en se disant « ce sera pour, en quelque sorte, ma vraie retraite ».
Exactement, et ça, c'est... S'il y a vraiment un message que l'on doit faire passer, c'est faites-le le plus tôt possible, véritablement, parce que plus on attend, l'inflation n'aidant pas. En France, on est un des champions de l'épargne. On a près de 19% de ce qui est reçu, qui est épargné. Mais parmi ça, il y a... Aux dernières données, il me semble, 500 milliards qui sont sur des comptes courants. Même pas en livret A. Si on inclut en plus sa poche livret A et d'autres livrets équivalents.
Oui, les LDDS, etc.
Mais 500 milliards sur des comptes courants.
C'est colossal.
Mais on a un travail d'éducation. C'est pas possible. On épargne pour poser ça sur un compte courant. Donc les personnes ne se rendent pas compte qu'ils perdent de l'argent au fur et à mesure. avec cet attentisme, cette crainte, cette peur d'eux, eh bien, il y a une espèce de... Ils sont figés et ils n'y vont pas. C'est dommage. C'est dommage. Donc, il faut se mettre en action. Alors, bien évidemment, ça ne va pas, ça va pas tout le temps être positif. Il y a des hauts et des bas. Mais, historiquement, la tendance fait que c'est très positif.
C'est plutôt aussi, oui.
Et profitable.
Oui, effectivement. Là-dessus, il y a une espèce d'incompréhension de la nature du risque. C'est-à-dire que le cash, c'est-à-dire soit les comptes courants, soit les livrets A, les trucs d'épargne, sont vus comme moins risqués parce qu'ils sont moins volatiles. Le risque, en fait, c'est de perdre à très long terme avec une certaine stabilité. Sur les comptes courants, vous êtes à peu près certain de perdre, puisque si vous avez ne serait-ce que 1% d'inflation, ce qui est déjà une inflation assez faible, et que vous avez vos liquidités sur un compte courant, et bien vous perdez déjà 1% en termes réels. Et déjà, même le livret A n'honore pas toujours ses promesses par rapport à l'inflation. Ça a été le cas pendant le Covid, par exemple. Le livret A ne permettait pas de vraiment lutter efficacement contre l'inflation. Donc, quelqu'un qui avait son livret A se disait « Super, peut-être que j'ai gagné 3% cette année. » Oui, mais si l'inflation allait de 7, en fait, vous avez perdu à peu près 4% de votre pouvoir d'achat réel. Donc là-dessus, il y a effectivement une incompréhension, il y a beaucoup d'éducation à faire là-dessus sur la compréhension de la réelle nature du risque.
Exactement. C'est des éléments clés parce qu'ils vont remplir toutes les poches. Livret A, livret équivalent, mon compte courant, mais ça, c'est une bêtise. Je pense que c'est pas exagéré de dire ça. Donc, compte courant, livret A, d'autres livrets équivalents. Ensuite, ça va être l'assurance vie, mais uniquement sur des fonds en euros. Donc, et après, il y a aussi l'immobilier dans tout ça. Parce que, forcément, quand on dit que l'immobilier a explosé depuis 40 ans, on se dit, ça va être très bien. Mais à un moment donné, ça s'arrête, ça stagne. On n'a plus d'évolution que l'on a pu connaître par le passé. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il s'avère que ça s'appelle les marchés financiers, les actions, les ETF, d'autres actifs. Et là, il y a de plus en plus d'intérêt. Donc, il y a cette prise de conscience trop longue, je trouve. Mais au moins, on va dans la bonne direction. Donc, ce rapport au risque, il doit être un petit peu atténué. On va pas mentir. Oui, il y a un risque. Mais à trop vouloir investir de manière non risquée, vous perdez de l'argent.
Oui.
Donc, le risque sur les marchés, c'est de perdre de l'argent. Mais là, vous ne prenez pas de risque, mais vous perdez de l'argent.
Oui. Comme la perte est plus stable, c'est vu comme moins risqué.
C'est une perte stable, mais on va stablement vers de la perte permanente, récurrente. Donc, on a vraiment c'est vraiment un cas de conscience.
Oui, alors que le marché action est plutôt une instabilité haussière sur le long terme. Il peut y avoir des phases très difficiles, mais... Bon, sur le long terme, ça marche quand même assez bien. Je voudrais parler d'une dernière fonctionnalité de XTB, c'est l'imprimé fiscal unique. Il faut savoir qu'en ce moment, là, on arrive à la toute fin de la période déclarative sur les plus-values, les dividendes, les intérêts, etc. Et puis sur les revenus aussi, tout simplement. Là-dessus... XTB propose l'imprimé fiscal unique, ce qui permet d'avoir sa déclaration en quelque sorte pré-remplie sur tout ce qui est plus-value, sur les valeurs mobilières, etc. Est-ce que ça a un impact, est-ce que ça a un attrait particulièrement intéressant du point de vue de la clientèle?
Alors, on parlait tout à l'heure d'éléments qui permettent aussi de sélectionner un courtier.
Oui.
Donc ça fait partie des éléments. Un courtier qui ne vous remet pas un imprimé fiscal unique, c'est le premier signe avant-coureur d'un courtier qui n'est pas forcément recommandable. Aujourd'hui, nous, on a des personnes qui peuvent demander justement d'avoir accès à ce document. Ça fait partie des obligations qu'on doit leur transmettre pour les faciliter la déclaration. On a un devoir de transmission. Maintenant, on n'a pas un devoir d'accompagnement. On n'est pas fiscaliste, bien évidemment, mais c'est de rendre l'information accessible pour faciliter leur déclaration. Donc aujourd'hui, oui, ça fait partie des éléments importants que l'on met à disposition auprès de notre clientèle pour répondre à leurs obligations fiscales. Donc oui, définitivement, il y a de la demande, mais surtout de l'attente, l'attente d'avoir ce document. Et pour ceux qui n'y sont pas, n'ont pas forcément conscience de cela, de l'IFU, l'imprimé fiscal unique, quand on débute, et si on n'a jamais ouvert un compte auprès ou qu'on n'a jamais investi, ils ne sont pas forcément informés que ça existe, ce document. Ça fait partie des documents qui sont indispensable pour investir, pour déclarer dans de bonnes conditions.
D'accord, très bien. Je voudrais terminer cette interview avec une dernière question, un peu provocatrice. Est-ce que vous pensez que l'État français pénalise l'investissement en France plutôt que l'encourage?
Je pense que les derniers éléments de l'augmentation des prélèvements sociaux, c'est la mauvaise direction. Donc ça montre clairement qu'il y a, inconsciemment ou non, on va pas dans la bonne direction. Je pense que la taxe sur la transaction financière, l'augmentation des prélèvements sociaux, ça envoie des messages contre l'investissement. Et là, une fois de plus, on est en train de pénaliser l'investissement sur les valeurs françaises. Mmh. C'est dommage. C'est dommage. Je pense qu'à un moment donné, il faut que, au niveau du gouvernement, au niveau des politiques, au niveau de la gestion de notre pays, il faut arrêter de penser qu'il faut toujours travailler au niveau des recettes. Mais maintenant, il faut porter son focus uniquement sur les dépenses. Mmh. Quand on est un foyer, à un moment donné, quand il n'y a plus d'argent, on ne va pas pouvoir s'endetter de manière permanente. Ça n'est pas accepté, ça n'est pas toléré. Donc on se retrouve dans une situation où on est contraint et forcé de devoir gérer les choses de manière correcte. Alors pourquoi est-ce que l'État se permet d'avoir de tels déficits qui s'accumulent, le poids de la dette, la transmission aux générations futures? Pourquoi est-ce qu'on se permet ça? On ne peut pas dépenser, on ne peut plus dépenser. On ne peut juste pas, il n'y a pas de sujet. Et c'est pas grave. Ça veut pas dire qu'on pourra pas plus tard. Oui. Aujourd'hui, on peut pas. Donc, on fait comme une gestion de bon père de famille. On revoit ses exigences. On revoit aussi son rythme de vie. Et on accepte qu'on ne peut pas tout payer, on ne peut pas tout financer. Mais une fois de plus, ça n'est pas d'être fataliste. C'est juste l'état du moment. Et demain, on aura un avenir plus radieux. Mais aujourd'hui, il faut simplement être un petit peu plus conscient qu'on ne peut pas faire.
Très bien. Merci beaucoup Daniel Gravier pour cet entretien. Je vous remercie vous aussi qui nous avez écouté tout au long de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés et évidemment sur l'Université de l'Épargne. Merci beaucoup.